Les grands entretiens de Storia Voce. Une émission de la rédaction de Storia Voce. On retrouve Christophe Dickès.
Bonjour à toutes et à tous, merci pour votre fidélité à Storia Voce et bienvenue pour ce nouveau numéro de nos grands entretiens. L'habit, dit-on, ne fait pas le moine, mais est-ce qu'une auréole fait un saint ? Je vous propose aujourd'hui de lever le voile sur un pan méconnu de l'histoire du christianisme, celle de ces hommes, celle de ces femmes qui auraient pu être saints, qui ont pu l'être un temps ou qui n'ont tout simplement pas franchi les dernières marches pour accéder, comme l'on dit, à la gloire des autels. Comment devient-on saint ? Existe-t-il une procédure ? Et comment dans l'histoire cette procédure s'est-elle mise en place ? Si vous me permettez l'expression, l'Église a-t-elle fait le ménage dans son calendrier ? Et selon quels critères ? Qui sont, enfin, ces grands à qui on refusa cet honneur suprême ? C'est ce que nous allons voir avec Jérôme Ancibero. Jérôme Ancibero, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être venu au micro de Storia Voce. Vous êtes journaliste spécialisé dans les questions religieuses. Vous avez été rédacteur en chef notamment de La Vie pendant plusieurs années. Vous êtes aujourd'hui enseignant et vous venez de publier un livre qui s'intitule Presque Saint, canonisation ratée et autres causes délicates, paru chez Talendier. Peut-être un mot sur cette couverture qui est assez étonnante puisqu'elle représente ni plus ni moins que Louis XVI. Tout le monde sait que Louis XVI n'était pas un saint, il n'est pas un saint, il n'est pas considéré comme tel. Et pourtant, vous avez réussi à trouver une photo, mais un tableau de lui avec une auréole.
Oui, alors il s'agit d'un tableau de Henri-Pierre Danloup, qui est un portraitiste connu à la jonction du XVIIIe et du XIXe siècle. Et donc, il a peint beaucoup de personnages célèbres, et en particulier, il a peint un tableau de Louis XVI au Temple. Et la couverture qu'on a là, c'est un détail de ce tableau, mais qui a été retravaillé pour les besoins de la cause, si j'ose dire. Donc, notre graphiste a rajouté une auréole qui n'est pas présente dans le tableau.
Dans l'original,
voilà,
du
dans
tableau.
Le tableau original.
Donc il y a une forme de fake news dans le
voilà,
sur la couverture.
C'était un petit clin d'œil, mais ce n'est pas complètement une fake news, puisque il y a effectivement eu alors non pas une cause à proprement parler formellement ouverte, mais une véritable entreprise pour canoniser Louis XVI, qu'on considérait, enfin que certains milieux considéraient comme un martyr de la foi.
Alors c'est ce que nous allons voir au cours de cette émission. Nous allons revenir sur Louis XVI, mais il me semble important de revenir sur cette notion de sainteté. Et ce qui m'a vraiment étonné dans votre livre, alors vous décrivez en fait tout le processus, l'histoire, nous allons là aussi y revenir, mais c'est le nombre de disciplines engagées pour faire un saint. Aujourd'hui, vous les citez, le droit, la sociologie, l'anthropologie, la philologie, la science politique, la psychologie, la psychanalyse et même la médecine qui s'en mêle.
Oui, c'est vrai que au début de l'histoire, on pouvait se dire que la sainteté c'était essentiellement une affaire de théologiens, mais les siècles passant, les procédures sont devenues de plus en plus précises et les théologiens, les spécialistes de la sainteté, ont eu besoin de s'adjoindre des spécialistes d'autres domaines. Alors des historiens tout d'abord, des spécialistes des archives, puisque quand on veut canoniser un saint ou le béatifier, on verra peut-être la distinction entre les deux termes tout à l'heure, il faut s'assurer de la vie, de la biographie de cette personne. C'est pas simple, donc on a besoin de spécialistes. Donc déjà, des historiens sont là, des archivistes. On a besoin aussi de gens qui comprennent les contextes. Donc souvent, il y a aussi des sociologues. Enfin souvent, non, pas si souvent que ça. Mais en fait, il y a des sociologues qui sont occupés aussi de sainteté. Évidemment, des psychologues, parce que certaines manifestations, alors de la sainteté ou des phénomènes extraordinaires, comme on les décrit, comme on les appelle dans ces milieux-là, peuvent éventuellement s'expliquer ou être éclairées par certains concepts de la psychologie scientifique. Et puis, donc, vous avez évoqué la médecine. Là, la médecine, c'est un peu particulier. C'est essentiellement pour ce qui concerne les miracles, donc pour lesquels, en fait, on fait intervenir des, alors non pas des spécialistes des miracles, mais des spécialistes de médecine, puisque la plupart de ces miracles qui sont pris en compte sont des guérisons. Donc, il faut que des médecins s'emparent du sujet. Et alors, on leur demande pas de certifier un miracle. Hein. On leur demande de dire, bon, ben, là, il y a eu une guérison. Scientifiquement parlant, moi, je ne sais pas expliquer cette guérison. Voilà. C'est tout ce que...
c'est tout ce qu'on demande au monde médical.
Voilà, mais c'est une expertise qui demande une étude scientifique tout à fait classique. Mmh.
Il y a aujourd'hui, on le voit bien, une technicité, on parle toujours de la spécialisation, il y a de plus en plus de spécialisation, il y a des médecins qui seront spécialistes du genou, d'autres du cerveau. Là aussi, c'est étonnant de voir cette technicité qui se développe, si bien que on peut dire qu'il y a une sorte de parcours du combattant à devenir sain.
Tout à fait. Et c'est un parcours du combattant qui s'est installé au cours de l'histoire. Ça a mis beaucoup, beaucoup de temps. Alors, on peut avoir l'impression, quand on connaît mal l'Église catholique, que les proclamations de saints ou de bienheureux, ça se fait sur un claquement de doigts de tel ou tel responsable ecclésial, du pape, d'un cardinal, ou de tel...
Ou d'un évêque,
ou de telle personne qui a du pouvoir. Mais en fait, c'est vraiment pas si simple, parce qu'il y a toute une procédure juridique, scientifique, qui peut prendre énormément de temps, et à chaque étape de cette procédure, eh bien, l'affaire peut s'arrêter, tout simplement. Ça s'est vu, et c'est précisément là-dessus que j'ai essayé d'écrire ce livre. Voilà. Mmh. Mais cette procédure, elle n'existe pas depuis toujours. Hein. Ça a mis énormément de temps, et la technicité actuelle, c'est le résultat de siècles, presque d'un millénaire, en fait, d'affinage, si j'ose dire.
Mmh. On voit, il y a une sorte de parallèle, hein, les émissions sur Storia Voce le montre bien, c'est que il y a vraiment deux millénaires hein, du christianisme, et le deuxième millénaire est un millénaire qui correspond au développement de l'administration, au développement d'une technicité, au développement aussi d'une centralisation des décisions. Qu'est-ce qu'un saint, Jérôme Ancibero ?
Alors là, c'est une très bonne question, et je ne peux toujours pas répondre après avoir étudié la question. Alors, il y a des réponses qui ont été données, il y a des milliers d'ouvrages, de traités qui ont été écrits sur ce sujet, des très belles homélies, des choses très intéressantes, et il y a des centaines de définitions de la sainteté. Alors, il faut d'abord distinguer deux choses, c'est la sainteté proprement dite, ou plutôt la sainteté en général, qui a strictement parlé en théologie chrétienne, n'appartient qu'à Dieu. Et la sainteté canonisée. La sainteté canonisée, c'est simplement un petit sous-ensemble de la sainteté tout court. Donc, là, dans ce livre, et en général, quand on parle de saint, quand on voit des annonces qui sont faites dans la presse, on parle de sainteté canonisée. Donc, une sainteté qui est passée par les fourches codines de ces procédures qu'on vient d'évoquer. Donc, il y a malgré tout des définitions qui sont données. Alors j'en ai retenu une. Alors je l'ai retenue parce qu'elle émane d'un manuel qui est utilisé aujourd'hui à Rome par les spécialistes. Et donc cette définition, c'est, alors j'ouvre les guillemets, pour l'essentiel, la sainteté est l'union avec Dieu qui est réalisée par la grâce. Alors une fois,
ce qui est vaste en fait.
Oui, voilà, ça reste très vaste et ça demande sans doute d'être précisé parce que c'est très compliqué. Alors pour l'essentiel d'abord, ça veut dire qu'il y a l'essentiel puis il y a le reste. L'union avec Dieu, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Réalisé par la grâce. Alors le concept de grâce, on sait que dans l'histoire du christianisme, même l'histoire des idées tout court, ça a donné lieu à des grands débats. Donc est-ce que ça veut dire que si c'est réalisé par la grâce, est-ce que les œuvres, les bonnes œuvres, sont inutiles pour devenir saint ou pas? Donc c'est assez compliqué. Alors, concrètement, pour la sainteté canonisée, Il y a plusieurs façons d'y accéder, plusieurs voies, si j'ose dire. Donc, il y a la voie du martyr. Alors, c'est assez simple, puisque un martyr, c'est quelqu'un qui est mort persécuté, et si on l'a persécuté, c'est en raison de sa foi. Donc, on dit que la personne a été tuée en haine de la foi. C'est le modèle des premiers martyrs chrétiens, en fait, et qui reste, en quelque sorte, le modèle général.
Le prototype
de la sainteté canonisée. Ensuite, il y a une deuxième voie, c'est celle de l'héroïcité des vertus. Alors, ça sonne un peu curieusement aujourd'hui, l'héroïcité des vertus. C'est simplement, on prend les vertus classiques de la philosophie grecque qui ont été reprises par le christianisme, hein, les vertus cardinales et les vertus théologales, donc la prudence, par exemple, des choses comme ça.
La foi, l'espérance,
voilà,
la charité.
Voilà, toutes ces vertus, on les prend une par une et on regarde si l'impétrant a été héroïque sur chacune de ses vertus, ou souvent sur quelques-unes de ses vertus en particulier. Alors l'héroïcité, c'est un peu compliqué, c'est pas une héroïcité de super-héros, hein. C'est simplement d'avoir tenu pendant un temps considérable. C'est pas forcément spectaculaire, mais c'est remarquable. Le spécialiste que j'ai cité tout à l'heure, qui donnait une définition de la sainteté, donne l'exemple de la chasteté. Il explique finalement, c'est pas tellement héroïque d'être chaste pendant une heure quand on est exposé à telle ou telle tentation. En revanche, rester chaste tout au long des années, pendant 10 ans, pendant 15 ans, pendant toute sa vie, ça, c'est héroïque. Donc c'est plutôt la constance qui est valorisée ici. Donc ça, c'était la deuxième voie, celle de l'héroïcité des vertus.
Donc le martyr, l'héroïcité des vertus, et la troisième.
Et la troisième voie, qui est récente, qui a été instaurée donc par le pape François, c'est l'offrande de la vie. Alors c'est différent du martyr, puisque l'offrande de la vie, c'est lorsque le saint en devenir accepte la mort, prend des risques, il sait qu'il va mourir en accomplissant une bonne action, par charité en général, il l'accepte, il n'est pas persécuté. Il pourrait tout à fait ne pas se lancer dans cette action, mais il le fait quand même. Un exemple simple, ce sont des soignants qui vont s'occuper de malades contagieux, des malades de la peste par exemple. Ils savent qu'ils vont attraper très certainement cette maladie. Eh bien, ils soignent quand même les malades et ils vont s'occuper d'eux. Et s'il meurt dans ces conditions, donc c'est une voie qui peut leur faire accéder à la sainteté canonisée. Et puis il y a ce que j'ai appelé la troisième voie ennemie. Là, c'est ce qu'on appelle la canonisation ou la béatification par équipollence, c'est-à-dire par équivalence en fait, où ça concerne essentiellement des personnages qui ont vécu il y a longtemps, donc pour lesquels on va peut-être pas relancer toute la procédure, parce que d'abord ce serait très difficile d'un point de vue historique d'établir une biographie très précise avec des documents, et puis aussi parce que ce sont des saints que les gens souvent vénèrent déjà depuis des siècles, donc on va pas j'allais dire prendre trop de risques, et de fait, ils ont été éprouvés déjà.
Et pourtant, vous le montrez dans votre livre, le Vatican II et le règne de Paul VI, c'est un moment où on nettoie en quelque sorte les calendriers, parce qu'on ne sait pas et on ne connaît pas historiquement, on n'a pas de certitude. Est-ce que ça veut dire que ces saints perdent leur sainteté, ou au contraire ils la gardent, en revanche ils sont écartés du calendrier?
Oui, c'est plutôt cette deuxième solution. En fait, très régulièrement, et c'est pas simplement Vatican II, hein, même si lors du Concile Vatican II ça a été spectaculaire, puis c'est assez récent, donc on s'en souvient pour ceux qui s'intéressent à ces questions. Régulièrement, l'Église catholique procède à, depuis, on va dire, le XVIe siècle, procède à des sortes de nettoyage du calendrier. Mais ça ne veut pas dire que les saints qui n'apparaissent plus dans les nouveaux calendriers sont chassés du paradis. Hein. Ça veut dire simplement que ces saints-là, on les remet à d'autres calendriers plus locaux ou propres à un ordre religieux, par exemple, où en fait leur vénération a plus de sens que dans ce qu'on appelle le calendrier général romain, c'est-à-dire la base du calendrier liturgique catholique romain, où il y a les grandes fêtes qu'on connaît tous. Hein. Et donc, lors de Vatican II, on a beaucoup insisté, enfin les pères de conciliaires ont beaucoup insisté sur cette nécessité, d'une part, de développer un peu ces calendriers locaux, mais aussi de faire la place dans le calendrier général romain, donc cette base de tous les calendriers locaux, à des saints qui étaient un peu moins européens, voire un peu moins méditerranéens, donc des saints venant d'Afrique, des saints asiatiques, des martyrs japonais, par exemple, parce qu'il n'y en avait pas, tout simplement, dans le calendrier, et qu'il s'agissait donc d'ouvrir tous ces calendriers à l'universalité de l'Église, proprement dite.
Oui, c'est marrant, c'est comme les cardinaux qui s'universalisent, et bien le calendrier s'universalise également. Vous évoquiez le local, on a la mauvaise image, en tous les cas une image qui est mauvaise précisément, parce que on croit que Rome décide de tout. Or, vous montrez bien dans votre livre, et on l'a vu encore une fois dernièrement dans l'actualité avec le pontificat du pape François, les églises locales ont un rôle primordial dans la découverte des saints, dans la création de ces saints.
Oui, c'est par Rome effectivement qui décide de tout et qui annonce comme ça, je sais pas, à l'Église de France ou à l'Église des Philippines. Bon, eh bien à partir de maintenant, vous allez vénérer tel saint. Et ça fonctionne pas comme ça. En fait, l'odeur de sainteté, comme on dit, donc c'est-à-dire la réputation de sainteté, elle naît localement, toujours. Donc, ce sont les communautés locales qui commencent à, pas forcément à vénérer un saint, mais disons à rendre hommage à un saint, à ce les gens vont sur la tombe pour prier, pour éventuellement demander ce qu'on appelle des grâces. Généralement, ce sont des miracles de guérison, des choses comme ça.
Oui.
Et donc, il commence à y avoir une sorte, pas de culte, mais comme une vénération. À ce moment-là, les autorités ecclésiastiques locales, qui ont l'œil sur toutes ces manifestations de piété, prennent généralement les choses en main pour essayer de contrôler ce qui se passe. Donc, qui est ce soi-disant saint, quelle a été sa vie, qu'est-ce qui se passe exactement autour de sa tombe, par exemple. Est-ce qu'il y a déjà des manifestations de culte ou pas? Ça peut être très important. C'est pas forcément positif, d'ailleurs. Donc, il y a un contrôle local. En général, c'est l'évêque local, quand cette organisation de l'Église s'est vraiment mise en place. Aujourd'hui, et depuis, on va dire, le XIIIe siècle, en gros, il y a une première enquête qui est conduite par ces autorités locales. Et une fois que cette première enquête est terminée, et si jamais le résultat s'avère plutôt positif, le dossier, qui est déjà un dossier solide, hein, déjà un dossier juridiquement construit, documenté, est transmis à Rome, où là, il y a des spécialistes des grands spécialistes qui sont en place et où il est étudié à son tour. Et ça peut durer des années, voire des dizaines d'années, voire pour certains des siècles. Il y a aujourd'hui encore des centaines de causes en souffrance. Hein.
Mais s'il y a une réaction à partir du XIIIe siècle, hein, vous le dites dans votre ouvrage, au moment notamment du règne charnière d'Innocent III, donc 1198-1216, c'est moins une volonté, enfin si, il y a cette volonté de contrôle, ce que vous appelez la réserve pontificale, mais cette réserve pontificale, elle vient du fait qu'il y a des abus ?
Oui, forcément, il y a des abus. On a quelques chroniques, pas plein, mais on a quelques chroniques de ces années-là, ou même d'un petit peu plus tard, où on voit tel moine un petit peu critique qui se balade en Italie et qui constate que dans telle petite ville, on est en train de vénérer le gros orteil d'un saint qu'il connaît pas, donc il va voir. Et puis, en regardant de plus près, il trouve que c'est une gousse d'ail, par exemple. Ça, c'est un exemple, c'est à Dante Salimbene. Donc, il y a plein de petites choses comme ça. Il y a des saints hyper locaux.
Parce que le culte des saints va de pair un peu avec le culte des reliques. Et dans le culte des reliques, alors là aussi, peut-être à tort, on surestime peut-être ce trafic, mais il y a eu des trafics de reliques.
Oui, il y a eu des gros trafics de reliques qui ont dû être d'ailleurs régulés très tôt, hein. Même bien avant qu'il y ait des procédures pour les canonisations elles-mêmes. Oui. La question des reliques posait un vrai problème. On trouve des capitulaires de l'époque carolingienne, donc qui explique que non, là c'est pas possible, pour vendre telle relique il faut l'accord du prince, l'accord de l'évêque, l'accord de telle autorité. Donc déjà ça posait une vraie question. Mais ce qui s'est passé en fait à la jonction du 12e et du 13e siècle, c'est que c'est deux choses en fait, ou même peut-être deux choses. D'abord, la nécessité pour la papauté de contrôler un peu les choses, parce que mine de rien, la sainteté et en particulier la question des miracles, c'est une question de foi, parce que c'est à travers les miracles donc que se manifeste, pour ainsi dire, le choix de Dieu. Donc si c'est une question de foi, à une époque où l'Église catholique est en train de se centraliser, donc après la réforme grégorienne,
11e siècle,
voilà, et le pape doit s'occuper de ces questions de foi s'il veut que les choses tournent correctement, ou en tout cas de façon orthodoxe, comme on l'entendait à l'époque. Donc il faut s'en occuper. Avant, les papes ne s'occupaient pas des questions de sainteté locale. Les papes avaient plein de choses à faire en Italie, hein. Donc c'était leur arrière-cour. C'était ça qui les intéressait. C'était les églises locales qui canonisaient, même si on peut difficilement parler de canonisation, tel saint en Angleterre, tel saint en Bavière, enfin peu importe. Ça c'est la première question qui se pose. Et puis la deuxième question, c'est que à ce moment-là se développe l'esprit juridique. En fait, l'esprit, même pour être plus précis, l'esprit inquisitorial. Alors, quand on dit inquisitorial, on a des images qui surgissent de grands inquisiteurs, de bûchers, etc. Mais c'est pas la question. En fait, quand on parle d'inquisition là, c'est une manière de procéder.
C'est une enquête.
C'est une enquête, une manière de procéder pour enquêter sur un sujet précis. Donc, et c'est une manière assez juridique de faire. Car il y a des questions, des réponses qui sont formalisées, qui sont recopiées par des notaires ou par des greffiers. Donc c'est à ce moment-là aussi que se développe cet esprit inquisitorial, donc au sens le plus neutre du terme, hein, au sens technique du terme. Donc ces deux raisons font que, à partir de ce moment-là, tout est en place pour que les procédures de canonisation puisse se développer de façon impressionnante.
Alors, le temps des juristes, c'est aussi un temps où on peut précisément remettre en cause le travail de ce qui a été fait jusqu'à présent. Et c'est une chose, là aussi, on parlait de Vatican II, mais là aussi, c'est une chose qui s'est faite à la fin de l'époque médiévale, au début des temps modernes. On est assez surpris de voir cela, et vous reprenez une citation, vous dites que il y a des zones grises où se promènent les historiens et les canonistes, et le tout fait penser à une épaisse forêt dans laquelle même un botaniste chevronné peut se perdre s'il ne trouve pas la signalisation adéquate. On est dans un univers, encore une fois, très, très, très complexe.
Oui, et alors, qui sait de plus en plus complexifié, en particulier à partir du XVIIe siècle, où là, les choses se sont formalisées de manière impressionnante. Donc c'est sous le règne d'Urbain VIII en particulier, le pape Urbain VIII, où là, c'était plus possible de s'occuper de canonisation et de béatification sans être un spécialiste des procédures juridiques, alors qu'auparavant, bon, il fallait que des spécialistes s'en mêlent, mais c'était peut-être pas aussi formalisé. Mais à partir du XVIIe siècle, d'ailleurs on vit encore là-dessus dans l'Église catholique, hein, sur les principes qui ont été mis en place à ce moment-là, c'est devenu extrêmement complexe, extrêmement codifié, avec des étapes qui sont bien précisées, on sait exactement ce qu'il faut faire à quel moment, à qui il faut faire appel. Et ça a été une évolution fondamentale sur la question des béatifications et des canonisations. C'est d'ailleurs à cette époque-là qu'on a commencé à distinguer à proprement parler entre les béatifications et les canonisations, justement. Deux termes qu'on utilise aujourd'hui. Auparavant, c'était à peu près la même chose, hein, enfin, ou alors il y avait une distinction qui était tout à fait informelle. Donc, à partir du XVIIe siècle, à partir d'Urbain VIII, là, la béatification, c'est une première étape sur ce qui, normalement, doit être une canonisation. Donc, et la béatification, ça veut dire que le culte public de tel saint est permis à un niveau local. Et la canonisation, ça veut dire que le culte du saint est permis à un niveau universel. Voilà, c'est ça la distinction à proprement parler. Mais cette distinction a permis, en fait, de régler des petits problèmes. Quand il y avait un saint pour lequel on se posait quand même quelques questions et pour lequel il était difficile d'accorder tout de suite une canonisation, on le béatifiait. Ça ne veut pas dire que ça se faisait tout seul, hein. Et puis, souvent, ça suffisait à rendre ses promoteurs heureux.
Alors, vous avez choisi une série de saints ou de presque saints ou bien même de saints à qui on a précisément enlevé l'auréole. J'en ai retenu trois parce que pour moi ils sont assez représentatifs à trois époques différentes. Le premier c'est Charlemagne. Et Charlemagne, on oublie que au fond c'est un saint toléré. Pourquoi il est toléré, Charlemagne?
Eh bien, aujourd'hui, si vous allez à Aix-la-Chapelle, donc Aachen en allemand, vers la fin janvier, ça dépend en fait, parce que la fête n'a pas lieu exactement le même jour, c'est le samedi. Et vous pouvez assister donc à ce qu'on appelle là-bas la Karlsfest, qu'on traduit en français par la Saint-Charlemagne. Donc, à la cathédrale, avec l'évêque, on a une messe en honneur de Charlemagne. Voilà.
Donc, c'est une fête locale.
C'est local et c'est uniquement local. Mais c'est bien l'évêque, c'est bien la cathédrale. Donc, on peut considérer que Charlemagne est un saint. Et de fait, il l'est à Aix-la-Chapelle et il l'était à d'autres endroits. Depuis le XIIe siècle, puisque en 1165, Charlemagne a été canonisé. Sauf que en 1165, la canonisation formelle, ça n'existait pas encore vraiment. Il n'y avait pas encore de réserve pontificale, c'est-à-dire le fait que la canonisation est réservée au pape. Et surtout, en 1165, Charlemagne a été canonisé par Pascal IV, qui en fait était un antipape. C'est-à-dire un pape qui avait été élu contre le pape que aujourd'hui l'Église catholique considère comme légitime, et qui avait été suscité par l'empereur germanique Frédéric Barberousse. Et donc Charlemagne a été canonisé par un antipape. Donc on pourrait considérer aujourd'hui, si c'est un antipape, bon, ça vaut rien. Mais c'est plus compliqué que ça, parce que de fait, localement, les gens étaient contents d'avoir un saint local, donc Aix-la-Chapelle, c'était la capitale, comme on dit aujourd'hui, de l'Empire de Charlemagne. Et le culte s'est perpétué localement, et puis à d'autres endroits aussi. Il y avait des lieux en France, à Périgueux, par exemple, il y avait un culte de Charlemagne assez longtemps. Il y a des exemples aussi en Espagne, en Italie, en Allemagne, évidemment, à plein d'endroits. Aujourd'hui, d'ailleurs, on célèbre encore la messe de Charlemagne à Francfort, pas seulement à Aix-la-Chapelle. Et donc le culte s'est perpétué. Et finalement, dérangeait personne, ce culte, puisqu'il était assez local. Les gens allaient à la messe, ils aimaient bien cette fête à Saint-Charlemagne. Il n'y a pas que la messe à la Saint-Charlemagne, à Aix-la-Chapelle aujourd'hui encore. Il y a une fête dans la ville, on mange les saucisses de Charlemagne. Enfin bon, c'est sympathique. Hein. Mais ça ne dérangeait personne. Et l'idée qu'on puisse tout d'un coup interdire ce culte, l'Église a considéré que c'était peut-être pas pastoralement très fin, puisqu'il y aurait eu sans doute des mouvements d'humeur. Et comme le culte ne dérangeait personne, eh bien, il a été toléré jusqu'à nos jours. Jamais Rome, jamais l'Église catholique n'a signé un quelconque papier ou une quelconque proclamation, jamais un pape n'a fait ça, en disant « Charlemagne est saint Charlemagne, il est béatifié, canonisé, nous certifions que… » Jamais. Simplement, il est toléré jusqu'à aujourd'hui et ça ne dérange personne et tout le monde est content. C'est une sorte de pragmatisme pastoral de la part de l'Église catholique.
Alors, il y a un prix européen, le prix Charlemagne.
Oui.
Mais le saint Charlemagne n'est pas devenu pour autant un des saints patrons de l'Europe.
Non. Évidemment, ça pose quelques problèmes aujourd'hui parce que les raisons pour lesquelles on a canonisé, entre guillemets, Charlemagne au XIIe siècle, ce sont des raisons qui aujourd'hui passeraient mal. Parmi les raisons qui sont égrenées dans le document signé par Frédéric Barberousse, qui explique pourquoi Charlemagne est canonisé, il y a le fait que il a combattu pour répandre la foi, il a combattu donc les infidèles, donc les Sarrasins de l'époque, les musulmans, les Saxons. Quand on connaît l'histoire de Charlemagne, donc il a massacré pas mal de Saxons en leur donnant le choix entre le baptême et la décapitation, par exemple. Donc des choses comme ça. Aujourd'hui, ça passerait sans doute mal. Mmh. Autre chose aussi, c'est sa vie personnelle. C'est-à-dire que les historiens sont incapables de dire combien de femmes et combien de maîtresses il a eu. Donc dans le martyrologe, c'est un peu particulier.
Je sens d'ici, en fait, déjà les réactions sur les réseaux sociaux, sur YouTube, dans les commentaires, etc. Bien évidemment, la sainteté, il ne s'agit pas de juger la sainteté, on va dire, du haut Moyen-Âge avec notre regard contemporain. Les concepts sont différents. C'est pour cette raison que le contexte et l'étude du contexte est essentiel.
Oui, et il y a en fait trois contextes à prendre en compte à chaque fois. Il y a le contexte biographique, oui, de chaque saint, c'est-à-dire à quelle époque il a vécu, ce qu'il a fait, quelles étaient les contraintes psychologiques, sociologiques, sociales, enfin tout ce qu'on veut, politique de l'époque, qui peuvent être très différentes de nos contraintes actuelles. Il y a aussi des questions peut-être plus... ces questions évoluent avec le contexte du moment où on décide de lancer une cause en canonisation. Et ce moment, ça peut être 50 ans après, 100 ans après, 3...
Jeanne d'Arc, par exemple, oui, c'est des siècles et des siècles après, parce que c'est le début du XXe siècle.
Exactement, même si certains avaient déjà pensé à canoniser Jeanne d'Arc, mais le contexte était, ouais, ne s'y prêtait peut-être pas, et le contexte était très différent. Ouais. Et puis, il y a, entre le moment où la cause est ouverte et le moment où la sainteté est proclamée, la canonisation se fait vraiment, il peut se passer aussi des décennies. Il y a trois contextes à prendre en compte, et pour chacun de ces contextes, eh bien, les critères moraux, les critères, on va dire moraux en général ou religieux, sont forcément pas les mêmes.
Mmh. Est-ce que on comprend mieux et est-ce qu'on doit relire l'histoire de l'Église à travers l'exercice de repentance qu'en avait fait Jean-Paul II? Sa vision incluait cette différence de contexte ou pas?
C'est difficile de répondre à cette question parce que ce qu'on prend en compte dans la sainteté sont quand même des gens, des modèles. Donc, il est quand même rare d'avoir des saints qui, selon nos critères actuels, seraient de parfaits salauds. En fait, moi, j'en ai pas trouvé énormément. Hein. Je vais vous donner un exemple qui est frappant. Les combattants des croisades, par exemple. On pourrait imaginer, dans la mesure où c'est le pape qui a appelé à la croisade, qu'il y a un certain nombre de croisés béatifiés ou canonisés. Mais en fait, non. Il n'y en a vraiment pas beaucoup. Il y en a même très très peu. Il y a Saint-Louis, mais encore Saint-Louis, est-ce que c'était un grand croisé? J'en suis pas sûr. Donc, malgré tout, on s'aperçoit que le sérieux des procédures fait que statistiquement, il y a tout de même assez peu de ratés.
Hmm. Alors, justement, il y a un personnage que vous présentez et dont on comprend aujourd'hui, surtout avec nos lunettes contemporaines, le fait qu'il ne soit pas saint, c'est Christophe Colomb.
Oui, ça, on l'ignore souvent pour ceux qui s'intéressent au personnage. Il y a eu une entreprise de canonisation de Christophe Colomb au XIXe siècle. Alors, la cause en canonisation elle-même n'a jamais vraiment été ouverte. Ce qui montre d'ailleurs à quel point Rome peut être prudente sur ces questions-là. Mais l'entreprise a bel et bien existé et elle a pris des proportions énormes puisque des centaines d'évêques et de cardinaux ont signé pour demander au pape de canoniser Christophe Colomb. Pourquoi est-ce qu'on lui a demandé ça? Donc ça a commencé au XIXe siècle. Et ce sont des Français d'ailleurs qui ont lancé cette affaire. Parce que Christophe Colomb a, comme on a coutume de le dire, découvert l'Amérique et donc il a en quelque sorte livré la moitié du globe à la possibilité de l'évangélisation. Donc ce qui est quand même une performance intéressante dans cette perspective d'évangélisation du point de vue de l'Église catholique. Et donc il a accompli quelque chose d'énorme pour l'Église. C'est en tout cas de cette façon que c'est les promoteurs de cette cause comprenez ces événements. Et donc ça a démarré en France au milieu du 19e siècle. Alors c'est essentiellement un écrivain, le comte Rosely de Lorgues, qui a mené cette chose-là, mais sur les instances de Pie IX lui-même, donc qui est, comme on sait peut-être, le premier pape à avoir voyagé avant d'être élu pape en Amérique. Donc il y avait une sorte de correspondance symbolique intéressante. Et donc cette cause a été lancée à ce moment-là, elle a été reprise en quelque sorte, on va dire soutenue aussi par un écrivain bien connu des milieux catholiques de l'époque, donc Léon Blois, qui a écrit deux ouvrages en faveur de la canonisation de Christophe Colomb. Et ça a été une très grande entreprise qui a donné lieu à des débats extrêmement violents, en particulier avec des historiens et même des ecclésiastiques italiens et génois qui, eux, ne voulaient pas de cette canonisation.
Et en fait, quand il y a de tels débats, on se dit la messe est dite, sans mauvais jeu de mots, il n'y aura pas de cause parce que il n'y a pas de communauté, il n'y a pas de vision commune des choses.
Oui, en général, Rome n'aime pas quand il y a des...
On le voit pour Pie XII.
Oui. Voilà, ça pose vraiment un problème. L'idée de communion n'est plus présente. Et pour Christophe Colomb, c'est ce qui s'est passé. Donc les gens s'écharpaient autour de Christophe Colomb. Alors pas pour les raisons qu'on imagine aujourd'hui, hein, pas du tout. Aujourd'hui, on se dit Christophe Colomb saint après ce qu'il a fait quand il est arrivé en Amérique. Donc Christophe Colomb lui-même a contribué à ce qu'il y ait des massacres d'indigènes sur place. C'est pas simplement parce qu'il a découvert l'Amérique et que d'autres sont venus commettre des atrocités qu'il a mauvaise réputation aujourd'hui. Mais c'était pas pour ça, en fait, qu'on s'écharpait à l'époque. C'était tout simplement sur des questions de mœurs, mais des questions de mœurs qui aujourd'hui paraîtraient bénignes, puisque, en fait, on lui reprochait de ne pas avoir épousé la mère de son second fils, tout simplement. Voilà. C'est là-dessus que les gens se sont écharpés. Après, donc à la fin du 19e siècle, au moment du 5e centenaire de la découverte de l'Amérique, Léon XIII a publié une encyclique, ou je crois que c'est une encyclique, à l'occasion de la découverte de l'Amérique, et il a expliqué qu'il fallait distinguer entre les saints et puis des personnes qui avaient rendu des services particuliers à l'Église, et c'était à propos de la découverte de l'Amérique. Donc tout le monde à l'époque a compris que Rome avait parlé, et que Christophe Colomb ne serait certainement pas saint, même si il y a eu d'autres entreprises pour le béatifier, venant cette fois des États-Unis et des Chevaliers de Colomb, donc qui est une organisation de solidarité, d'assurance mutuelle catholique. Donc, comme leur nom c'était les Chevaliers de Colomb, ça avait du sens pour eux de porter une entreprise en béatification et en canonisation, mais finalement ça n'a pas abouti.
Alors, dernier portrait, peut-être celui dont vous parliez tout à l'heure, c'est Louis XVI. Pendant la Révolution, il y a eu, après la Révolution, des saints, donc des personnes qui ont été tués à cause de leur foi, et vous reprenez le personnage de Louis XVI. Louis XVI ne peut être considéré comme un martyr de la foi?
C'est une question qui s'est posée, en tout cas, très vite après son exécution, le 21 janvier 93, à Rome, on était convaincu que c'était un martyr. Donc, Pie VI lui-même a tenu un discours devant les cardinaux en expliquant que Louis XVI était un martyr, que la question ne se posait pas, que donc il était très certainement saint. Mais même Pie VI, même le pape, doit se conformer aux procédures de canonisation. Et Pie VI le savait très bien. Donc il n'a rien proclamé du tout, Pie VI. Il a juste fait part de sa conviction intime devant les cardinaux. Et puis les années passant, finalement, les cardinaux, qui ont fait preuve à cette occasion sans doute de la vertu de prudence, ont considéré que ce n'était pas si simple que ça. Donc il a été exécuté dans des conditions un peu particulières, effectivement, mais est-ce que c'était vraiment
à cause de la foi?
Voilà, à cause de sa foi catholique, ou est-ce que c'était une conséquence des troubles politiques de l'époque? Ça peut se discuter. Il y a eu d'autres exemples dans l'histoire où, par exemple, Marie Stuart ou Benoît XIV, qui est un grand spécialiste de la canonisation et des saints, avait considéré dans son grand ouvrage, qui est la référence quasi absolue là-dessus, qu'elle était finalement martyre, hein, Marie Stuart. Alors que la question se pose vraiment, pourquoi est-ce qu'elle a été exécutée? Le procès qui était le sien, c'était plutôt parce qu'elle avait ourdi un complot contre sa cousine. Donc, c'est pas vraiment évident. Et donc, malgré ce précédent, la Congrégation des Rites, qui est la grande administration à Rome qui, à l'époque, s'occupait des questions de canonisation, a considéré qu'il fallait peut-être être prudent là-dessus, d'autant plus que commençaient à se poser des questions d'ordre politique. Qu'est-ce que ça voulait dire canoniser le roi Louis XVI? Alors, en 1795, on peut comprendre. En 1800, peut-être aussi encore. Mais après, quand on commence à négocier un concordat, quand quelques décennies plus tard, on commence à essayer d'avoir des relations diplomatiques, ça devient peut-être plus compliqué. Donc du coup, la cause a été peu à peu officiellement
Abandonné.
Oui, abandonné, rejeté. Il y a des courriers qu'on a très explicites là-dessus. Alors, ça n'a pas été rejeté, fermé, puisqu'elle n'a jamais été ouverte formellement, mais la messe est dite, si j'ose dire.
Alors, peut-être une dernière question. Est-ce que vous avez des regrets de ne pas avoir... de ne pas avoir traité tel ou tel personnage.
Oui, parce qu'en fait, il y a plein d'exemples de canonisation ratées ou en souffrance, en tout cas, toutes ne sont pas ratées, elles vont sans doute ou peut-être aboutir. J'ai surtout étudié des personnages qui sont connus par ailleurs pour que la chose soit relativement aisée à lire par des lecteurs qui sont pas forcément spécialistes de des canonisations. Et du coup, j'en ai laissé quelques-unes de côté, par exemple celle de Savonarole.
Donc, ça aurait été passionnant.
Oui.
Parce que Savonarole, en fait, s'oppose au pape.
Oui, voilà. Il a même été excommunié par le pape. Et aujourd'hui, il y a une cause en cours. Donc, est-ce qu'on peut canoniser quelqu'un qui a été excommunié par le pape?
Ce serait Alexandre VI, c'est celui qui avait plusieurs maîtresses, enfin.
Oui, voilà. Alors, il a, d'une certaine façon, il a de la chance, Savonarole, puisqu'il a été excommunié par Alexandre VI, qui est pas le pape le plus exemplaire non plus de l'histoire. Et puis il y a plein d'autres exemples. Je donnais l'exemple de Jacques Fesch aussi, donc un meurtrier en fait, qui a été condamné à mort,
qui a tué un policier,
voilà, qui a été exécuté pour avoir tué un policier. Donc sa cause est ouverte. Alors il s'est repenti en prison. Il a laissé des écrits qui montrent, qui témoignent de son cheminement spirituel. Mais canoniser Jacques Fesch, ça aurait des effets sur un peu particuliers. Que vont dire par exemple des policiers catholiques? Que va dire la famille du policier qui a été tué? Donc il y a à chaque fois des enjeux qui vont au-delà des enjeux théologiques ou des enjeux proprement religieux. Et c'est passionnant, il y a plein d'histoires comme ça. Alors ces histoires, on les trouve éparses ici ou là dans des études, mais j'ai essayé d'en regrouper quelques-unes pour voir s'il y avait des rapprochements à faire, et il y en a quand même quelques-uns. Et ce qui m'a le plus impressionné, c'est surtout le pragmatisme sur ces questions-là de l'institution catholique.
Pourquoi l'Église a besoin de saints? Pour montrer que la grâce de Dieu existe?
Alors, il y a des églises chrétiennes qui n'ont pas besoin de ça. Ça, semble-t-il, les protestants, par exemple. Mais de fait, l'Église catholique considère que les saints sont des modèles, des aides pour incarner en fait cette foi et la croyance. Donc le christianisme étant une religion de l'incarnation, c'est peut-être plus simple pour certaines personnes d'avoir des modèles auxquels ils puissent se conformer, qui puissent les inspirer. Et c'est essentiellement à cela que servent les saints dans l'Église catholique.
Eh bien, merci beaucoup, Jérôme Ancibero, d'être venu au micro de Storia Voce. Presque saint, !, canonisation ratée et autres causes délicates, un ouvrage paru chez Talendier. Il me reste à vous remercier, chers auditeurs, de votre fidélité. N'hésitez pas à nous soutenir. Rendez-vous dans notre rubrique Soutenez Storia Voce à partir de notre page d'accueil de notre site storiavoce.com. Merci beaucoup et à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de nos grands entretiens.